je voulais peut-être, avant de passer le micro à la salle, poser une question commune à vous quatre, qui serait en fait de vous demander pour chacun d'entre vous ce travail sur la question de que sont devenus les dépôts de transfert, comment ça a éclairé pour chacun de vous ce que c'est qu'une névrose. C'est-à-dire, on tourne autour de ça. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une réponse? Est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est une pathologie? Est-ce que c'est une structure? Etc. Donc finalement, de travailler sur cette question pour chacun d'entre vous, comment ça a éclairé ce que c'est que la névrose?
Question à Milavo.
Exactement.
J'ai envie de répondre avec quelque chose que, en reprenant quelque chose que j'ai dit, j'ai indiqué que c'était une parenthèse, c'est une question et que je n'avais pas la réponse. Donc c'est ce qui m'est venu quand j'ai découvert dans l'un des derniers séminaires de Lacan, donc, puisqu'il s'agit du moment de conclure, donc 78, je pense, la névrose est-elle naturelle? J'étais assise, mais je crois que si j'avais été debout, je serais tombée. Bon, alors, je disais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que nous sommes donc tous névrosés? Est-ce que la névrose serait une condition du par-l'être? Et il me semble, j'ai indiqué à un moment donné qu'il me semblait que chez Lacan, non seulement il y avait tout un travail de repenser la névrose, Sidi a élaboré ça de façon plus détaillée, plus élaborée que moi, il me semble que oui, que ça va dans le sens d'une simplification. Par exemple, c'est cette phrase qu'on trouve, cette remarque, la névrose, ça tient aux relations sociales. On ne peut pas dire les choses plus simplement. Et je crois que ce n'est pas par hasard qu'il les formule comme ça, mais que ça correspond à un vrai travail de ce que j'appelle de simplification, au meilleur sens du terme d'ailleurs. Hein. La simplicité étant bien sûr l'idéal de la science. Je ne sais pas comment dire, parce qu'il faudrait l'argumenter, pouvoir défendre ça mieux que je ne vais le faire, mais il me semble... D'abord, je considère depuis très longtemps que la névrose n'est pas une maladie du tout. On peut dire que c'est une maladie, mais ça ne dépend. Hein. De même que je pense qu'il n'y a pas lieu de parler de malade. Freud utilise le mot pendant un certain temps dans ses premiers écrits. Il parle plutôt de patient. Il a fallu attendre Lacan pour qu'il nous fournisse la notion et le mot d'analysant, mais... proprement parler, je ne reçois pas de patients ni de malades, je reçois des analysants hein, quand ils arrivent à y entrer, sinon bon. J'aime bien cette idée, je pourrais encore une fois le justifier, qu'en fait il y a quelque chose là de l'ordre de la condition du par-l'être. Je suggérais que ce dire de Freud que Lacan dévoile, hein, dire au fond ce que disait Freud, le dire de Freud. Ce qui se déduit de tous ces énoncés sur la sexualité, c'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Bon, c'est l'apport de Lacan, ça, mais il le présente comme le dire de Freud, et une fois qu'on a lu ça chez Lacan, effectivement, on le retrouve chez Freud. Hein. Bon, il met ça au cœur de... non pas de la névrose, Lacan. J'ai dit qu'à la place... j'ai suggéré qu'à la place du complexe nucléaire de la névrose, qui est l'expression que Freud emploie pour le DIP, une fois que le DIP est réduit à ce qui... soit quoi, il est réduit, à la place, au cœur, non pas de la névrose du coup, mais de tout par l'être, il y a le non-rapport sexuel. Et donc cette cause sexuelle qui est la cause, je disais, la cause de la névrose n'est pas sociale mais sexuelle, et l'idée reste chez Lacan, sauf qu'entre-temps, ce qu'on trouve à la place de la, en place plutôt de cause sexuelle, c'est le non-rapport sexuel. Et ça, ce n'est pas le propre du névrosé, mais du par-l'être. Donc vous voyez, d'où l'idée, si vous voulez, que voilà, que peut-être que la névrose, en un sens, effectivement, est naturelle, au sens où elle serait une condition du par-être. Hein. Bon, ce serait à préciser, bien sûr, mais voilà, pour répondre à la question de Natacha.
Oui, effectivement, là où ça fait effectivement travailler, c'est sur ce déplacement qu'opère Lacan quand même par rapport à la conception de Freud. Effectivement, après, il parle surtout au début de malade et puis ensuite de patient, mais il y a quand même l'idée, effectivement, qu'il y a une conception développementale de la sexualité et que donc il y aurait une norme sexuelle. Et voilà, ce qui m'a intéressé, c'est de voir comment effectivement Lacan, lui, revient complètement sur cette question de la norme sexuelle. Alors du coup, est-ce qu'on est tous névrosés ? C'est vrai que c'est une question à poser. En même temps, on pourrait peut-être dire plutôt que le névrosé va essayer de traiter c'est une solution dans le sens, une tentative de solution dans le sens où il essaye à travers ses symptômes notamment et à travers la question qu'il pose, le névrosé obsessionnel de la question de la mort et la névrose hystérique de la question du sexe et de l'identité sexuelle, il essaye de traiter cette question du non-rapport sexuel à sa façon, aussi en l'évitant. Bien sûr, voilà, et en tournant autour de cette jouissance du manque, finalement, qu'il ne cesse d'alimenter chez lui comme chez l'autre, mais c'est à travers la question qu'il pose à l'autre, qui est supposée consister, enfin c'est la façon de faire consister l'autre, cette question qu'il pose, c'est une tentative de solution du non-rapport sexuel.
Alors, pour ce qui me concerne, ce qui m'a véritablement intéressé dans ce travail, c'est d'une part de m'être rendu compte au fond que chez Freud, il y avait deux conceptions de la névrose, une conception pathologique ou psychopathologique, voire médicale de la névrose, et une tentative de rendre compte d'une conception structurelle de la névrose. Cependant, il n'arrive jamais à s'émanciper totalement de la conception psychopathologique. C'est le premier point. La deuxième chose que j'ai aperçue, me semble-t-il, je soumets ça à la discussion, c'est que chez Lacan, ce qui a prévalu au début, quand il a essayé de se décaler de la conception psychopathologique de la névrose, c'est une conception sociologique. Ce n'est pas pour rien qu'une des grandes références des complexes familiaux, c'est Durkheim. Et qu'au fond, il a fallu attendre tout son travail sur la structure de langage, toute la place qu'il accorde à cette question de la structure, pour prendre, lui, à la fois une distance par rapport à la conception médicale et par rapport à la conception sociologique. C'est-à-dire que quand il, à la fin de son enseignement, il parle du fait que la névrose tire aux relations sociales, ce n'est pas au sens premier des complexes familiaux. Il y a eu entre-temps toute l'élaboration concernant la structure de langage, d'une part, et la catégorie de discours. Et que les questions que nous rencontrons aujourd'hui tiennent au fait qu'il y a sans doute, mais c'est la base, me semble-t-il, pour la psychanalyse, pour le psychanalyste, la névrose structure, mais que cette névrose structure varie dans ses manifestations, dans ses modes de présentation, en fonction des discours qui dominent. Et que c'est ça, moi, l'enseignement que je tire.
Oui, je partage ce dit là. C'était puis d'avoir travaillé là sur la question du transfert. C'est la question de la structure, de la condition du par-lettre. Et après, Alors après, c'est la question des symptômes. Comment chacun voilà, se débrouille avec... quelle place a le symptôme est plus ou moins coûteux, certains symptômes, et les symptômes en couleur du discours.
La structure et la fonction, et puis il y a l'enveloppe formelle.
Avec, comme, enfin, c'est vrai qu'on constate maintenant dans les sujets qui consultent, c'est une jouissance plus débridée. Un peu plus présente au premier abord.
Désinhibée.
Comment ? Désinhibée, oui.
Chez
certains, oui. Peut-être un peu plus.
Je voulais dire un
peu. Oui. La présidente, il y a des mains qui se lèvent. Ah oui, vas-y.
À propos, je voulais.
Tu veux une discussion
une petite remarque en passant. À propos de Freud, parce que j'ai relu Freud pas mal ces derniers jours, et il me semble que c'est très nuancé chez Freud. Cette conception psychopathologique de la névrose, tu disais, il y a l'effort d'une conception structurelle, effectivement, surtout en 24, on trouve ça de façon très très claire. Et d'ailleurs, il pose la question de ce qu'il faudrait pour pouvoir définir quel mécanisme faudrait-il trouver qui puisse être dans le champ de la psychose ce que le refoulement est dans le champ de la névrose. Donc c'est bien une recherche d'une définition structurale de la névrose. Mais en plus, il y a beaucoup de remarques chez Freud qui rapprochent, qui disent la difficulté d'établir une frontière nette entre le névrosé et l'homme dit normal. Et dans ce sens-là, il me semble que c'est difficile de parler de... Moi, je ne parlerai pas d'une norme sexuelle chez Freud. Je crois que Freud pointe les normes sociales. Mais je ne vois pas en quoi il évoque une norme sexuelle.
Si, quand même, quand il dit que... il parle d'amour... Oui, si, quand même, quand il parle d'un défaut d'accomplissement de la fonction sexuelle, la névrose est un défaut d'accomplissement de la fonction sexuelle, il a quand même l'idée... que la fonction sexuelle a un développement elle a un ordre de développement pour aboutir jusqu'à son accomplissement et sa pleine et entière maturité. Et donc, quand même, la norme sexuelle, selon lui, c'est la norme hétérosexuelle. Tout ce qu'il dit sur l'homosexualité,
Qu'est-ce qu'on fait alors des remarques de Freud qui sont là dès 1912, bien avant le mal-être dans la civilisation, où il dit que quelque chose dans la pulsion sexuelle semble s'opposer à sa pleine satisfaction. 1912. Ce que je viens de citer, vous le trouvez dans Malaise dans la civilisation, c'est 1926. Je dis que l'affirmation, on la trouve chez Freud, il ne faut pas attendre Malaise dans la civilisation, on la trouve déjà en 1912. Relisez les considérations. Les considérations sur la psychologie de la vie amoureuse. Le deuxième essai qui date de 1912, sur le ravalement de la vie amoureuse, vous avez un paragraphe où Freud dit textuellement ce que je viens de rappeler, hein, et qu'il reprend dans le malaise. Il y a quelque chose dans la pulsion sexuelle qui s'oppose à sa pleine satisfaction.
On va passer peut-être à quelques questions dans la salle. Donc Louis d'abord, puis Colette, si je vous plaît. Puis alors Louis.
Oui, quand on a pensé au titre pour la soirée et cette soirée, on a pensé pas seulement à la question du devenir de la névrose, mais la question des névroses et transferts au sens de la méthode des traitements de la névrose. Puisque c'est certain que Freud n'abandonne jamais la catégorie des névroses et transferts, pas comme catégorie clinique, mais comme ce qu'il nomme une maladie artificielle. comme une méthode de traitement de la névrose. Donc j'ai deux questions à tous, parce que je crois que là-dessus c'était assez homogène comme proposition, celle que vous faites, très intéressante, la façon dont vous avez développé la question du rapport de la névrose à la névrose de transfert. C'est deux questions. La première, je ne sais pas, c'est une véritable question, hein. À partir de quand,
si tu le dis.
Oui, à partir de quand Lacan cesse de parler des névroses de transfert? Parce que c'est certain qu'à partir d'un moment, il ne parle plus des névroses de transfert. D'ailleurs, Vanda, tu évoques une remarque de Lacan sur la névrose de transfert, où c'est une critique.
Absolument.
Et puis, plus tard, dans le savoir du psychanalyste, quand il s'agit de parler de la méthode du traitement de la névrose, il ne parle plus de la névrose et de transfert. Donc il y a là une critique de Lacan, pas seulement sur le contre-transfert, mais sur la névrose et le transfert elle-même. Donc je voulais avoir votre avis, et si vous savez quand est-ce que Lacan a cessé de parler de la névrose et de transfert. Alors, est-ce que c'est un souci de simplification? Je ne pense pas. C'est une question de changement de la méthode qui opère sur la névrose.
Bon, alors, moi, je voudrais aller dans le sens, effectivement, qui a été soulevé par Sidia Scoufari tout à l'heure. Je crois qu'il faut pas se précipiter du tout, sur ce qui serait pour moi une pente imaginaire à entériner une disparition des névroses de transfert. Parce que je pense que l'accent doit être mis, je reprends ce que tu as dit, sur la névrose comme structure. Et d'ailleurs, ce qui vaut pour la remarque qui vient d'être faite par Louis Siskovitch aussi, parce que c'est vrai que si Lacan, après Freud, n'emploie plus, alors je ne sais pas jusqu'à quand, le terme névrose en fer, le transfert, il maintient complètement la névrose comme structure clinique. Donc si on prend ce repère de la névrose comme structure, on se tire une épine du pied, parce que ça veut dire que la névrose comme structure n'est pas en voie de disparition. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Par contre, effectivement, la névrose comme structure varie dans sa présentation. Ça, c'est vrai. Bon, il faut bien différencier, on va dire, le plan structural et, je dirais, le plan plus phénoménologique. Voilà. Bon, à ce titre, je m'évite, mais je pose une question à Sol parce que sa question m'a turlupiné. Enfin, c'est mal le mot, je ne l'appelle jamais d'ailleurs. Ah, ça, c'est la phénoménologie. Bon. Alors, si tu dis que la cause sexuelle de la névrose, qu'à la place de la cause sexuelle vient le non-rapport sexuel, je veux dire, je ne comprends pas.
La cause sexuelle demeure.
Mais alors, comment tu as dit à la place de la cause sexuelle vient.
À la place de l'Œdipe.
Et là, comment ça
à la place du complexe d'Œdipe, que Freud considère comme un complexe nucléaire, ce qui donne l'idée que c'est le noyau de la névrose. À cette place vient le non-rapport sexuel.
Et je comprends ce que ça veut dire.
Ça veut dire que c'est ma façon de lire la remarque de Lacan quand il dit, quand il écrit plutôt, dans l'introduction à l'édition allemande des écrits, à dire crûment la vérité qui s'inscrit des dires de Freud sur la sexualité, il n'y a pas de rapport sexuel. Tu te souviens de ça?
Oui.
Bon, donc, ce non-rapport sexuel, d'après Lacan, c'est le dire de Freud. Et effectivement, il me semble que c'est le cas. Ça peut se lire, si tu veux. Bon, alors, ce que je proposais, c'était de considérer que ce dire de Freud est en fait ce qui fait le cœur de la névrose, ce qu'on trouve comme noyau de la névrose, le réel qui est là. Et que c'est l'Œdipe est déplacé, hein, l'Œdipe est critiqué par Lacan. Tu le sais comme moi, on peut faire des bémols, mais je faisais référence au fait que dans les derniers séminaires, Lacan en fait un mythe dans le discours qui ne serait pas du semblant. Il y a deux mythes fabriqués par les névrosés, le mythe de l'Œdipe fabriqué par l'hystérique et le mythe du père de la haute fabriqué par l'obsessionnel. Ça, c'est Lacan à ce moment-là. Et quelques temps après, à l'époque des nœuds, c'est l'idée que l'Œdipe est un symptôme.
Oui, mais
donc, je faisais référence à ça. Or, la cause sexuelle de la névrose demeure.
Bon, d'accord. Alors,
cause sexuelle et freudienne. Voilà.
Juste quand même, pas aller trop vite pour réduire l'Œdipe à juste à ça, parce que le point structural de l'Œdipe, qui est la castration, Lacan le maintient complètement.
Absolument.
Donc, réalisation de la castration,
oui.
C'est même un
d'accord, Annie, je n'ai pas parlé de la. Je n'ai pas parlé, évoqué la castration, mais je suis d'accord.
C'est l'Œdipe qui a un lien avec la castration.
Absolument. Et on ne peut pas parler de tout. Donc, je ne l'ai pas dit. Mais on est d'accord. Que je ne l'ai pas dit ne veut pas dire que je ne sois pas d'accord avec toi.
Bon.
Et j'ai une petite idée pour répondre à Louis, mais.
Bon, ce sera mon tour de. Je n'étais pas censée répondre tout de suite.
On va passer la parole à Colette.
Oui, ça va être rapide parce que.
Et à Colette Solaire.
Pour moi, ça va être rapide puisque Louise a posé la question que j'allais poser, mais je voulais quand même faire une remarque historique. D'abord, je suis contente qu'on reconnaisse ce que Freud doit à Jung, au moins sur le plan terminologique, parce que s'il lui doit le terme de névrose de transfert, il lui doit aussi le terme de complexe, et je crois aussi le terme d'imago. Et alors ensuite, pour revenir à ta remarque sur malade, malade suppose maladie et donc guérison. Et donc toute l'opposition névrose de transfert, névrose narcissique tourne autour de que peut guérir la psychanalyse. Or à partir névrose de transfert suppose guérison par l'interprétation du transfert. Et c'est ça qui va être le cœur de la démarche freudienne. Or dès qu'on se décale, et c'est ce que va apporter Lacan, de l'action, l'acte analytique après comme interprétation du transfert, alors on voit effectivement l'opposition névrose de transfert, névrose narcissique tomber de soi, puisque de toute façon il est bien reconnu que le transfert existe dans les deux cas. Voilà, donc c'était juste la petite remarque que je voulais faire.
Oui, bon, il y a beaucoup de choses, je ne sais pas comment les prendre, mais je commence par une chose qui m'a paru assez amusante, et je remercie Sidine d'avoir amené, au fond, en posant la question de l'actualité des névroses, bon, nous avons des questions de fond sur la psychanalyse, mais aussi une petite intention d'être à l'heure du jour. Et alors, c'était assez amusant de voir que tu nous as montré... à l'heure du jour, c'est l'heure de Lacan en 38, c'est l'heure de Nietzsche en 67, et que c'est l'heure de Auger aujourd'hui. C'est-à-dire, au fond, Lacan en 38, il est déjà sur une position qu'il va dénoncer et renverser. Alors, ce serait quand même fâcheux que nous revenions à ces positions-là qui consistent à regarder la société, ce qui s'y passe, il y a de la pression, il y a de la haine, il y a de l'individu, tout ça c'est du descriptif. C'est du descriptif qui est du matériel inerte pour la psychanalyse. Alors bon, ça c'était la première remarque que je voulais faire. La deuxième, anecdotiquement, là où on voit que Freud était en plein dans la norme hétérosexuelle. C'est dès 1904, les trois essais sur la théorie de la sexualité. Pourquoi appelle-t-il l'enfant petit pervers polymorphe? Parce qu'à ce moment-là, il est complètement appuyé sur Havelock, Kelby, Ewis et Krafft-Ebing, qui nous ont décrit quoi? Les perversions. Et qu'est-ce que c'est les perversions pour eux? C'est tout descriptif. C'est toutes les pratiques de corps qui ne sont pas le coït hétérosexuel et dans la bonne position en plus. D'où, oui, puisqu'il y a les perversions par rapport à la zone, il n'y a pas que les perversions par rapport à l'objet. Bon. Et quand Freud dit petit pervers polymorphe, il ne l'aurait pas nommé autrement en découvrant l'auto-érotisme oral, l'auto-érotisme anal, c'est du pervers. Dans un discours d'époque. Alors évidemment, après, on voit Freud, pas, c'est intéressant à suivre, commencer à comprendre que l'hétérosexualité, c'est pas si simple, que ça doit se construire, que c'est peut-être pas idyllique, etc. Alors, Je voudrais quand même, je me disais, en vous écoutant, ça a été une surprise, je veux dire, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tous les quatre, vous avez donné droit de citer à la notion de névrose de transfert. En en parlant comme si on l'utilisait aujourd'hui encore. Moi, je dois dire, névrose de transfert, je ne m'en sers pas. Je me sers de transfert avec névrose, mais névrose de transfert, non. Et pourquoi? Je veux dire, pourquoi? Au fond, chez Freud, la névrose de transfert, c'est tout simple, c'est le transfert à la situation analytique de la névrose infantile. Et donc, c'est une répétition au sens du même. Le même qui se répète dans le bureau de l'analyste. Et Lacan, très vite, très tôt, a critiqué ça. Et a dit, le transfert, il y a des éléments répétitifs, mais le transfert n'est pas répétition. C'est la direction de la textuelle. Puisqu'il dit, si le transfert était névrose de transfert au sens de répétition de la névrose infantile, l'interprétation serait inopérante. C'est textuel dans la direction de la cure. Alors, je crois que ça, c'est quand même une chose très importante. Et Van Gogh, le texte que vous avez cité, c'est cette même ligne. C'est cette même ligne. La névrose de transfert, c'est pas une notion opérante.
Oui, je peux dire un mot par rapport à ça. Bien sûr. Non, c'est que je crois que ce dont on ne tient pas compte, c'est qu'il y a deux expressions différentes chez Freud. Il parle des névroses de transfert, et quand il ne parle pas de la névrose de transfert.
Oui, oui,
c'est pour ça que ce que tu dis rejoint ce que Jusiskovic disait tout à l'heure. Et je suis tout à fait d'accord, et c'est ce que j'allais répondre à lui. Dans ce sens-là, il me semble que ce qui s'est substitué à cette question de la névrose de transfert au sens de
c'est les
reprise.
Névroses de transfert. Voilà, la distinction clinique des névroses de transfert.
Voilà, il y a les névroses de transfert,
oui, oui.
Voilà, qui est descriptif. Il y a la névrose de transfert que Freud lui-même abandonne d'une certaine manière. Ça n'apparaît qu'une fois dans la répétition, remémoration et collaboration. Et après, il n'en parle quasiment plus. Et il me semble que la manière dont on peut reprendre cette question chez Lacan, c'est à partir de la question de l'hystérisation.
C'est la névrose.
Oui, là, il y a la névrose. Si on veut rapprocher quelque chose de la névrose de transfert de Freud, c'est...
Juste une remarque de Colette. J'ai commencé en disant les névroses de transfert sont les névroses toutes nouvelles.
Oui, bien
donc,
sûr.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
C'est les névroses toutes nouvelles. Une dernière remarque, c'est sur... la névrose tient au lien social. Comment on entend cette phrase ?
Relation sociale.
Aux relations sociales. Tient en relations sociales. C'est la première thèse de Freud. Parce que qu'est-ce que c'est les relations ? Bien sûr, il a construit entre-temps ses discours. Donc, nous qui avons lu, nous savons que le discours, comment se construit un discours, quels en sont les termes ? S barré, poisson de A, S1, S2. Mais au fond, les relations sociales, ça revient à dire que la névrose investit l'objet, comme Claire a commencé par là, en parlant de Freud. Le névrosé est un sujet qui investit l'objet A dans les objets extérieurs de la réalité. Et donc, c'est pas très nouveau, en fait. C'est très simple, mais c'est pas très nouveau. Souvent, ça arrive chez Lacan, il donne une phrase très simple et qui reprend des choses d'origine. Bon, voilà.
Alors, un quatre.
Oui, pour répondre à Louise.
Oui. Louise, à Colette, c'est belle.
Colette faisait une remarque, pas de question. Oui, sur la névrose de transfert, j'avais écrit un petit paragraphe que je n'ai pas lu pour que ce soit pas trop long, où j'essayais de dire pourquoi je laissais de côté la question de la névrose de transfert malgré son intérêt.
Et je pensais citer le même passage que Vanda a cité, d'une leçon des problèmes cruciaux pour la psychanalyse, de Février, je crois, des leçons de Février, où Lacan, effectivement, dans la suite de sa critique du contre-transfert, est extrêmement critique à l'égard de la notion même de névrose de transfert.
Et la névrose de transfert.
Oui, la névrose, c'est-à-dire entendue comme la reproduction de la névrose dans la vie. Et il me semble, en effet, qu'à partir de... D'ailleurs, c'est un point que Vanda a évoqué, je crois, qu'à partir du moment où Lacan introduit l'idée de la notion d'un désir de l'analyste, à partir du moment où il conçoit avec l'acte analytique, c'est dans la suite des problèmes cruciaux, la cure comme concernant un seul sujet et non pas deux, et l'analyste étant en position d'objet et pas autre chose, d'une certaine façon, à la place de cette notion de la névrose de transfert, je dis bien en particulier, on a chez Lacan, me semble-t-il, la structure du fantasme. On a le S barré, poinçon de petit a. C'est-à-dire que c'est une toute autre façon de penser la chose. Et chez Freud, il n'y a qu'une seule mention de cette névrose de transfert
plus
en 1914.
Dans les conférences aussi. Conférences d'introduction, il en parle.
Oui, je chercherai. En tout cas, dans la citation, le passage que j'ai trouvé, c'est en 1914. Et effectivement, c'est très nuancé ce qu'il dit. Hein. Il parle d'un domaine intermédiaire entre la maladie et la vie réelle, qui prend les aspects d'une maladie artificielle, et puis il affirme que c'est une tranche de vie réelle, ce que Lacan va reprendre en soulignant le caractère réel de la chose, que des conditions favorables rendent possible et qui a un caractère provisoire. Hein. Donc, voilà.
Merci à vous quatre.